service francophone vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 30 juin 2014, en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique, chez Robin Dorsil
et Morgane Guiriec.
Au sommaire ce soir, plusieurs églises prises pour cible par Boko Haram dans le nord du Nigeria, bilan au moins 50 morts.
Vers le déploiement d'une force mixte d'intervention en République centrafricaine.
23 agents de police et de la gendarmerie ont reçu ce matin à Bangui leur certificat après une dizaine de jours avec les formateurs de l'Union européenne.
En Irak, les djihadistes proclament le rétablissement du califat islamique.
Dans notre segment spécial sur la Coupe du Monde, le Brésil et le Costa Rica en quart de finale. Les aigles du Nigeria ont volé très bas face à la France.
C'est totalement la tristesse partout dans le Nigeria parce que tout cet espoir s'est écroulé et les gens sont véritablement déçus.
Ce soir, l'Afrique joue sa dernière carte avec les Fenech de l'Algérie face à la puissante équipe allemande. Mais d'abord, le journal.
Au Nigeria, la dernière attaque attribuée aux islamistes de Boko Haram, qui a ciblé dimanche plusieurs églises du nord-est du pays, aurait fait plus de 50 morts. Jean-Roger Billon.
Les autorités n'ont fourni aucun bilan officiel, mais un responsable de l'État de Borno a déclaré à l'AFP que l'on compte pour l'instant 54 morts. Des habitants disent avoir découvert 47 cadavres dans la brousse, mais les recherches sont toujours en cours et le bilan pourrait encore s'alourdir. Les assaillants qui circulaient à moto ont lancé des bombes dans les églises de Kwada, Ngurojina, Karago et Kotikari pendant l'office du dimanche. Ces quatre villages attaqués se trouvent tous dans un rayon de 10 km autour de Chibok, où Boko Haram avait enlevé plus de 200 lycéennes le 14 avril. L'État de Borno est le berceau de l'insurrection islamiste qui a fait plusieurs milliers de morts depuis 5 ans et au moins 2500 victimes rien que depuis le début de l'année.
En République centrafricaine, bientôt, déploiement d'une force mixte d'intervention pour sécuriser Bangui. Cette force sera composée d'environ 90 policiers et 160 gendarmes centrafricains. Le point avec Idriss Fall.
23 agents de police et de la gendarmerie ont reçu ce matin à Bangui leur certificat après une dizaine de jours avec les formateurs de l'Union européenne. Les récipiendaires auront à former dans les prochains jours 330 policiers et 400 gendarmes centrafricains. Commandant Serge Battistella de la Compagnie républicaine de sécurité en France.
Là, ils ont commencé à avoir une formation terrain. Donc, on les a préparés à être des formateurs à la fois dans le cadre de formations théoriques, de cours en salle, sur le droit. Nous avons vu l'éthique du maintien de l'ordre, le comportement des personnels. Et à la fois, être capable de mettre en œuvre des stages, des séances de formation sur le terrain en termes de pratiques professionnelles de police et gendarmerie.
Par ailleurs, le numéro 2 de l'ex-Séléka a suspendu la coordination politique provisoire mise en place en mai dernier à Ndélé. Dans un communiqué, le général Noureddine Adams convoque une nouvelle assemblée générale des ex-Séléka le 3 juillet à Birao pour réfléchir sur le prochain forum de Brazzaville et la mise en place d'un nouveau bureau politique.
En Égypte, deux policiers ont été tués aujourd'hui dans des explosions à proximité du palais présidentiel du Caire. Le bilan fait aussi état de plusieurs blessés. Des djihadistes avaient auparavant annoncé avoir posé des bombes près du bâtiment. Jacques Aristide.
Ces attentats interviennent un an jour pour jour après les protestations monstres contre le président Mohamed Morsi, par la suite chassé du pouvoir par l'armée. Au total, deux déflagrations ont eu lieu ce matin, tandis qu'un troisième engin artisanal a été découvert dans le jardin présidentiel et a pu être désamorcé. Les services de sécurité passaient au pain de fin les environs du palais présidentiel après l'alerte donnée par les djihadistes du groupe Ajnad Massar eux-mêmes. Ils avaient averti avoir posé des bombes autour du palais, mais en affirmant ne pas vouloir les faire détonner pour ne pas tuer des civils. Ces attentats ont également eu lieu un mois après l'arrivée à la tête du pays de l'ex-chef de l'armée Abdel Fattah el-Sissi. Le nouveau président égyptien est critiqué non seulement pour la répression des frères musulmans, mais aussi l'opposition tant laïque que libérale.
En Afrique du Sud, reprise du procès d'Oscar Pistorius, les experts psychiatres ont conclu qu'il était en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu'il a tué sa petite amie en 2013, Lionel Gaïma.
Le procès avait été ajourné pour donner le temps à des experts médicaux de voir si Oscar Pistorius jouissait de toutes ses facultés mentales. C'est chose faite. Le procureur Guérinel a fait le résumé du rapport de 4 experts affirmant que M. Pistorius ne souffrait pas d'un trouble mental ou d'une infirmité qui l'aurait rendu pénalement irresponsable de l'acte dont il est accusé. Autrement dit, Oscar Pistorius est pénalement responsable. Accusé d'avoir consciemment tué sa compagne Reva Steenkamp, Pistorius a plaidé non coupable et assure qu'il croyait avoir tiré sur un intrus. S'il est reconnu coupable, le champion paralympique est passible de la prison à perpétuité ou à 25 ans ferme de réclusion.
Attentat à la bombe en Somalie. La police et des témoins rapportent qu'une explosion s'est produite dans un marché de Mogadiscio, la capitale. On compte 2 morts et 7 blessés. La bombe était placée sous une pile d'ordures près d'un poste de police.
Le général Augustin Bizimungu, ancien chef de l'armée rwandaise, écope de 30 ans de prison pour son implication dans le génocide de 1994. Le tribunal pénal international pour le Rwanda confirme la condamnation en appel.
République démocratique du Congo, c'est aujourd'hui la fête de l'indépendance du pays. Les forces armées ont organisé un défilé militaire inédit à Kinshasa.
Crise au Mali, Blaise Compaoré, médiateur de la CEDEAO dans le conflit, se dit confiant dans une solution pacifique. Les Maliens veulent se réconcilier, a déclaré le président burkinabé à son arrivée au Mali pour une visite de 2 jours. Il doit rencontrer le président Ibrahim Boubacar Keïta, les chefs de l'opposition, ainsi que Bert Conders, chef de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les 3 jeunes Israéliens enlevés le 12 juin ont été retrouvés morts dans le sud de la Cisjordanie, près de Hébron, ont annoncé aujourd'hui les médias israéliens. Les corps des 3 jeunes, dont Israël a imputé l'enlèvement au Hamas, ont été retrouvés près de la localité de Alloul, à une dizaine de minutes de la route où ils ont été enlevés, où ils ont été vus pour la dernière fois, a précisé la radio publique israélienne.
En Irak, les combats ont continué aujourd'hui à Tikrit contre les militants de l'État islamique en Irak et au Levant qui viennent de proclamer le rétablissement du califat islamique dans les larges pans de territoire irakien et syrien qu'ils ont conquis. Idrissa Seloudia.
L'aviation irakienne a effectué des raids sur Tikrit pendant la nuit, poursuivant l'offensive que les forces gouvernementales ont lancée samedi pour chasser de la ville les insurgés. Selon un porte-parole officiel, l'armée irakienne a repris depuis hier soir le contrôle total de l'université de Tikrit et continue ses efforts pour libérer totalement la province et d'autres secteurs occupés par les djihadistes. Ces derniers ont dit que leur dirigeant Abu Bakr al-Baghdadi est aussi le leader du nouveau califat et ils ont demandé à tous les musulmans de faire acte d'allégeance. À noter que même les leaders d'Al-Qaïda, dont l'État islamique en Irak et au Levant est une émanation, avait au début de l'année désavoué al-Baghdadi et son mouvement.
En Syrie, des attaques de l'armée à Idlib, dans le nord-ouest, ont fait au moins 14 morts aujourd'hui. Ce bilan s'ajoute aux 27 personnes tuées hier dans cette même province. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres, le bilan serait de 15 morts, dont des enfants. La majorité de la province d'Idlib est contrôlée par les rebelles, alors que son chef-lieu est tenu par le gouvernement.
Les dirigeants de l'Ukraine, la Russie, la France et l'Allemagne ont discuté au téléphone aujourd'hui à l'approche de la fin du cessez-le-feu dans l'Est ukrainien. Suite à un échange téléphonique de 2 heures entre les 4 dirigeants, le président Petro Poroshenko a annoncé la prolongation du cessez-le-feu jusqu'à au moins minuit ce lundi. Selon le bureau du président français François Hollande, des résultats concrets sont attendus pour aujourd'hui. La Russie a menacé de sanctions additionnelles si elle n'use pas de son influence auprès des séparatistes de l'Ukraine.
L'armée pakistanaise annonce le début d'une offensive terrestre contre les bastions des talibans près de la frontière afghane. Cette nouvelle phase intervient après l'évacuation d'environ 500 000 d'habitants et 2 semaines de bombardements aériens dans le Waziristan Nord. Selon l'armée, des fouilles ont commencé de maison en maison dans la localité de Miran Shah à la recherche de militants opérant au Pakistan et en Afghanistan. Environ 15 talibans ont été tués ce week-end, précisent les militaires, qui confirment aussi la mort de plus de 330 terroristes présumés depuis le début de l'offensive dans la région tribale du Nord-Ouest.
En Chine, un général qui fut à un moment numéro 2 de l'armée vient d'être exclu du parti communiste. Chu Kaihu doit faire face à une cour martiale pour corruption. Âgé de 71 ans, il est accusé d'avoir accepté les pots de vin et abusé de sa position pour favoriser la promotion de certains de ses proches. Le général Kaihou faisait partie jusqu'en 2012 du bureau politique du comité permanent du Parti communiste. Mis à la retraite l'année dernière, il est pratiquement en résidence surveillée depuis plusieurs mois. C'est le plus haut responsable à subir les effets de la campagne anticorruption lancée par le président chinois Xi Jinping.
Une trentaine de corps ont été découverts dimanche en Méditerranée sur une embarcation de réfugiés. C'est ce qu'annonce l'AFP, précisant que ce énième drame de l'immigration provoque une polémique en Italie, même si la marine militaire a réussi à secourir 5000 candidats à l'exil ce week-end.
Encore une décision défavorable de la Cour suprême pour le président Barack Obama. Cette fois, les 9 juges se sont prononcés sur un aspect de la fameuse loi sur la réforme du système national de santé. La Cour a reconnu aujourd'hui le droit de certaines entreprises à refuser les contraceptifs à leurs employés si cela va à l'encontre de leurs croyances religieuses. Le verdict s'applique seulement aux entreprises appartenant à quelques personnes, donc quand il n'y a pas de grande différence entre l'entreprise et ses propriétaires. Voilà pour le journal, 18h41 en temps universel, 14h41 ici à Washington, chez Robert Dorcy et Morgane Guériec en votre compagnie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, place à la partie magazine de notre émission.
Élections locales au Sénégal, au lendemain du scrutin, certaines tendances dans la capitale donnent la victoire à la liste Taxawu Dakar, dirigée par le maire sortant, Khalifa Ababacar Sall.
Il faut dire que ces résultats non encore officiels montrent aussi la déroute du parti au pouvoir, qui a presque perdu dans toutes les communes de Dakar. Les Dakarois interrogés ne sont pas surpris, vu le bilan positif du maire sortant, Dina Bassier Douba.
La liste Taxawu Dakar, dirigée par le maire sortant Khalifa Sall, a gagné presque la totalité des communes de la capitale. Cela n'est pas une surprise pour Alimou Diallo. Ce citoyen habite les parcelles assainies.
Je pense que cette victoire, elle était prévisible dans la mesure où, quand même, Khalifa Sall, c'est un maire qui s'est beaucoup défoncé pour quand même permettre aux populations de vivre dans la sérénité dans la capitale.
Ces premières tendances en faveur de Khalifa Sall ne surprennent pas non plus le vieux Badara Diop. Il loge à Wakam.
Le pouvoir qui est en place le plus souvent, les Sénégalais ont tendance déjà à vouloir le sanctionner. Je ne sais pas, mais c'est malheureux. Et ce Khalifa Sall, moi-même, je le supporte. On voit qu'il est en train de faire du bon travail.
Par rapport à la déroute de la coalition présidentielle, Alpha Kane et Sofika l'expliquent par une non-structuration du parti au pouvoir.
Moi, je crois que le président a mal choisi ses hommes. Parce qu'il a choisi des hommes qui n'ont personne derrière eux. Quand tu veux poursuivre le pouvoir, choisis des hommes compétents qui ont vraiment une troupe derrière. Mais des gens qui ne font que parler. Et puis ce qui fait chuter tous les dirigeants politiques.
Si on analyse les résultats au niveau de Dakar, moi je pense que beaucoup de tenants de la paix ont perdu leur localité. C'est le cas de Mbaye Ndiaye, le cas de Sédou Gueye, le cas de Pape Mayel Thiam, entre autres responsables. Moi je pense que c'est un message qu'on a lancé au chef de l'État.
Mieux, Ibrahim Fall voit à travers ces résultats un mécontentement populaire.
Le train de vie des Sénégalais là, et la manière dont ils avaient apprécié comment le gouvernement faisait, avec les dossiers qui tardent là à sortir. Tout ça, ça a réitéré des mécontentements au niveau de la population et je pense que c'est la traduction du mécontentement des Sénégalais.
Les résultats du scrutin de dimanche ne sont pas encore officiels, mais la victoire de la liste Taxawu Dakar de Khalifa Sall est certaine au vu des résultats partiels donnés par la presse. Des résultats qui en disent long sur l'état d'esprit des Dakarois, des élections à ne pas négliger selon les populations interrogées. Diana Bassey Douba, Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde, les résultats, les coulisses et les à côté de cet événement planétaire. Matin et soir, la Voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamerique.com et notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
Le respect et l'application de l'accord du 18 juin 2013, signé entre le Mali et les groupes armés, c'est le but de la visite du président burkinabé au Mali. Blaise Compaoré a entamé ce lundi 30 juillet une visite de 48 heures dans ce pays, Morgane.
En plus de Bamako, Blaise Compaoré et Ibeka se rendront ce mardi 1er juillet à Ségou, deuxième ville du Mali, où le président du Faso rencontrera une colonie du Burkina et visitera l'office du Niger, la plus grande zone de culture du riz au Mali. Cette visite de travail est placée sous le signe de la coopération sud-sud, mais de la relance du dialogue entre Bamako et les groupes armés. Kassim Traoré.
Cette visite du président du Faso va au-delà des liens séculaires, géographiques, historiques entre le Mali et le Burkina Faso. Blaise Compaoré.
Mettant l'accent sur les échanges que nous devons avoir aussi pour voir comment consolider nos économies. Parce que nous sommes parmi les rares pays enclavés dans le continent qui n'ont pas d'accès à la mer, qui sont aussi pour nous dans un Sahel profond. Cela veut dire que nous avons des responsabilités qui sont plus grandes.
Très contesté à Bamako, parce qu'il héberge les rebelles du MNLA, cela n'a pas empêché le président Blaise Compaoré d'évoquer l'application de l'accord de Ouagadougou.
Que les Maliens, aujourd'hui, veulent la paix, veulent se réconcilier, veulent trouver, par le dialogue politique, des solutions aux crises passées. Pour nous, aujourd'hui, il doit être utile, effectivement, d'aller vers la préservation des acquis déjà de l'accord du 18 juin.
Pour Blaise Compaoré, l'accord du 18 juin 2013 peut faire avancer les pourparlers et très rapidement.
Qui indique bien que les Maliens veulent vivre dans un espace unitaire, unifié, veulent vivre sans extrémisme, veulent vivre réconciliés dans la République, veulent arrêter la guerre, organiser bien sûr le cantonnement, le désarmement, ramener les déplacés, les personnes réfugiées. C'est dire que tout est balisé pour que nous allions vers l'optimisme.
Le président du Faso dira enfin qu'avec l'application de l'accord de Ouagadougou, la CEDEAO et la communauté internationale aideront le Mali à sortir de sa crise. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Retour sur cette affaire de trafic de bébés entre le Nigeria et le Niger.
17 personnes, dont 12 femmes, dont l'une des épouses du président de l'Assemblée nationale, mais également l'épouse d'un ministre en fonction, sont depuis jeudi en prison dans le cadre d'une enquête sur un trafic international de bébés entre plusieurs pays de la sous-région. L'affaire fait grand bruit à Niamey. Les avocats de l'épouse de Ama Amadou parlent de machination politique. Qu'en pensent les citoyens? Écoutons quelques-uns au micro de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est une réaction de profonde indignation, puisqu'il s'agit quand même de la traite des personnes, et l'une des pires formes de traite, puisqu'il s'agit des bébés. Cette pratique est une pratique honteuse et criminelle, et nous estimons quand même que la justice doit aller jusqu'au bout pour que les coupables soient châtiés, afin de prévenir cette perversion de notre société, une perversion extrême qui ne saurait être tolérée par la conscience, je dirais, religieuse des Nigériens qui, pour la plupart, sont musulmans.
Et cette question, là où ça nous touche, on parle d'implication des personnalités qui pensent diriger ces pays-là un jour. C'est extrêmement grave. Vraiment, nous demandons à l'État de prendre toutes les mesures pour punir d'abord les auteurs et les co-auteurs de cet acte criminel, cruel et dégradant, qui n'a même pas de sens quand même dans un pays musulman. Et que le gouvernement qui n'arrive pas à punir ça, c'est-à-dire il a trahi son serment.
Comment pouvez-vous imaginer que des gens qui donnent l'exemple aux autres, des gens qui, c'est eux qu'on regarde pour agir, se comportent de cette manière? Ici, il s'agit d'une fraude. Il s'agit de quelque chose d'ignoble que l'on n'a jamais vu. Ça jure avec les principes de la religion, ça jure avec les principes moraux de toutes sortes que nous connaissions. Si il n'y avait pas des gens du pouvoir, ils allaient dire que c'est une manipulation. Mais il se trouve ici que des personnalités proches du pouvoir y sont impliquées. Alors, cette fois-ci, pour de bon, il faut que les Nigériens sachent que les problèmes judiciaires sont judiciaires et il faut les considérer comme tels. Les problèmes politiques sont à part, il faut les considérer comme tels.
c'est pathétique, c'est regrettable et c'est vraiment inattendu. C'est inattendu. Je pense que c'est vrai, il y a les sentiments d'avoir une progéniture et un sentiment très grand. C'est un vœu très ardent. Mais c'est des choses qui sont bannies par la religion. Et vraiment, personne ne s'attend à ce que des musulmans partent payer, puisqu'il faut le dire, les termes payer des êtres humains, il y a du faux à tous les niveaux. Mais le plus grand regret qu'on a, c'est de voir que c'est les femmes qui ont été arrêtées, notamment par rapport à certaines personnalités. On considère que c'est les femmes qui sont responsables alors que leurs maris sont en train de dormir chez eux.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Le journal de la Coupe du Monde, ce soir en studio, Timothée Donangmaï et au Brésil, nous l'espérons, notre envoyé spécial Nicolas Pino. Salut Tim.
Et bonsoir Gabi, bonsoir Chérubin, et bonsoir à tous. La France s'est qualifiée pour les quarts de finale ce soir en battant le Nigeria 2-0. Et l'équipe de France a bataillé dur pour se maintenir dans la course en première période, mais c'est au retour des vestiaires que les choses se sont renversées, en tout cas défavorablement pour les Nigériens.
Et c'est le cas de le dire, le coq a eu raison des aigles.
Et tout à fait, alors la pause est intervenue sur un score vierge. Au retour des vestiaires, les Bleus ont repris l'initiative, faisant pression sur les Nigériens, une stratégie qui a payé à la 79e minute avec le but de Pogba. Et les Français défendent ce but jusqu'aux arrêts de jeu et bénéficient du coup de pouce de Joseph Yobo qui dévie une balle dans ses propres filets. Et les Bleus passent donc en quart de finale. Et pour le Nigeria, c'est la fin de l'aventure brésilienne. Alors, bien évidemment, c'est une grande tristesse au Nigeria, ainsi que nous le dit Patiedé Ali Cabré, notre correspondant à Lagos.
C'est totalement de la tristesse ici à Lagos, c'est totalement de la tristesse partout dans le Nigeria parce que toute la foi et la vigueur et tout l'espoir que les Nigériens avaient sur les Super Eagles pour passer cette étape de la compétition, eh bien tout cet espoir s'est écroulé et les gens sont véritablement déçus. Déçus d'autant plus que le Nigeria a montré en première période de ce match-là que le Nigeria était capable donc de faire un miracle, de battre la France et puis d'accéder au quart de finale. Donc c'est la déception, c'est vraiment la déception, la grande déception.
À quoi les Nigériens attribuent-ils la défaite des Super Eagles ce soir ?
Ben, je pense que il n'y a pas d'accusation particulière. Les Nigériens, ils se disent que de toute façon, les joueurs ont donné le maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Ils savent que la France n'est pas une petite équipe. Ils savaient que la France, d'une manière ou d'une autre, était bien capable de remporter cette victoire. Donc, c'est pas une grande déception de la part des Nigériens.
Quelle est l'ambiance dans les rues de Lagos ce soir?
Ben, c'est le calme total, c'est vraiment la tristesse. Le match est fini, les gens sont en train de marcher dans les rues, tout calme. Certains réagissent, certains, vraiment, ils ont les bras ballants, ils se disent « Oh, mais wow, qu'est-ce qui s'est passé ? Vraiment, c'est dommage que ça se termine ainsi. » Et puis bon, voilà, d'autres ont beaucoup d'espoir. J'étais tout de suite avec un groupe de jeunes qui disaient que de toute façon, ce n'est pas la fin du monde, que c'est le football et que le Nigeria a démontré, en tout cas sur le terrain, qu'aucune équipe dans le monde ne peut dire qu'elle peut affronter le Nigeria sans avoir vraiment un battement de cœur, c'est-à-dire sans avoir peur, voilà, d'affronter le Nigeria. Donc ils sont fiers de l'équipe nigériane, quel que soit donc le résultat qui s'est passé ce soir.
Voilà, c'était Patiedé Ali Cabré, notre correspondant à Lagos, Chérubin, qui nous parlait de l'ambiance là-bas, de la tristesse des fans nigériens qui sont bien évidemment très déçus de cette sortie en huitième de finale des Super Eagles du Nigeria.
D'autant qu'on ne s'y attendait pas et que le score ne reflète pas tout à fait la physionomie du match.
Non, les Nigériens se sont bien battus. En tout cas, ils ont dominé la première période, on l'a vu. Et malheureusement, ils ont péché par maladresse. Ils n'ont pas pu capitaliser sur un certain nombre d'occasions nettes. Leurs tirs n'étaient pas cadrés, leurs passes étaient imprécises. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes du du côté de la technique, alors qu'ils étaient là physiquement, très en forme, mais la technique n'était pas là.
Il reste un seul espoir maintenant pour l'Afrique, pour les quarts de finale.
Oui, c'est l'Algérie face à l'Allemagne. Et donc, c'est un match que nous allons suivre tout à l'heure. Et pour clore ce journal de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, voici le coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
We celebrate the best African football. No wahala,
Bonjour. Le Nigeria ne sera pas la quatrième nation africaine à atteindre les quarts de finale dans la plus prestigieuse des compétitions mondiales. Pourtant, il s'en est fallu de peu, tant les coéquipiers de Michael Obi avaient poussé les Bleus dans leur dernier retranchement jusqu'à la 70e minute et ce but assassin du faux frère Pogba qui coupait pour ainsi dire les pieds des Africains, maîtrisant jusque-là leur équation. Bien en place, alternant avec bonheur les phases défensives et les phases offensives, le bloc nigérian a su priver les Français de ballon au milieu de terrain et empêcher l'adversaire de déployer son habituel jeu offensif en rouleau compresseur. Le jeu court et vif des Africains, obligeant Didier Deschamps à privilégier une sage prudence. Dans ces conditions, le salut ne pouvait venir que d'un éclair de génie ou un détail. Les Français vont forcer le destin en cherchant le sésame par le truchement des coups de pied arrêtés ou de coin, que les Nigériens vont commettre l'erreur de leur offrir facilement dans le dernier quart d'heure et la rentrée en jeu de Griezmann dans le couloir gauche. La suite, on la connaît, avec ce corner de Valbuena et le but de Pogba de la 79e minute que le Nigeria a curieusement refusé de contester par un barreau d'honneur. Les Super Eagles ont été à la hauteur de l'enjeu. C'est l'essentiel à retenir. À demain.
Merci Jules Valentin Gouet. Team pronostic Algérie-Allemagne. C'est difficile à faire. Mais et si on prend en considération ce qui s'est déjà passé entre ces deux équipes, on peut dire que les Fenech ont toutes leurs chances ce soir.
Oui, il y a bien évidemment ce précédent et entre les deux pays et les Fenech entendent bien prendre leur revanche ce soir.
Comme le disait un commentateur hispanique, nous allons avoir la prunelle de nos yeux sur Porto Alegre.
Tout à fait.
Voilà, Tim Donangmai, le journal de la Coupe du Monde. Et on termine avec Roger Munto.
Roger Munto est arrivé à nos côtés pour la page musicale. Salut Roger.
Bonjour Morgane. C'était le 30 juin 1960 que la République démocratique du Congo accédait à l'indépendance. Happy birthday RDC. Avec Patrice Lumumba à la primature et Joseph Kasavubu à la présidence, le jeune pays célébrait alors une grande étape de son histoire avec la chanson Indépendance Cha-Cha de Grand Calais, ici interprétée par Delvis El Salcero et Manuaku Waku.
Sorico tabaco, ayo cari moco moco, acora cat na carte, valigari na frocore, policando casabu, ero munda na carongi, olia chombi cavitatu, oye fada butanca.
La fin de cette édition, mise en onde par Lionel Gaïma, assisté de Wagner Roberts. C'était Chérubin Dorsil
et Morgane Guiriec.